Ben encore une fois, vous prendrez bien un petit psaume. Il s'agit du psaume 139, très connu, et que nous avons déjà parcouru il n'y a pas si longtemps, mais toujours aussi riche. « Au chef de cœur, psaume de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. » Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, tu voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait et ton bras droit me tiendrait. Et si je dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables, si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de la mer. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. Puisse, ô Dieu, faire mourir le méchant. Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leur dessein criminel. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas les haïr, ceux qui te haïssent, et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants, éventuellement incliner vos têtes, mais fermez les yeux et de méditer ce psaume, de méditer silencieusement quelques minutes ces paroles que nous venons d'entendre. Gardons les yeux fermés et livrons-nous à un petit exercice. Se trouverait-il autour de moi un espace dans lequel Dieu ne se trouverait pas? Si je fais un pas en avant, imaginons dans nos têtes ce pas en avant, se pourrait-il que Dieu n'y soit pas? Serais-je encore dans la présence de Dieu? Imaginons maintenant que je fasse un pas à gauche. Dieu sera-t-il toujours là? Même chose à droite. Continuons notre petite exploration imaginaire. Vers le haut tout d'abord, en montant sur un étage ou sur une montagne. Suis-je toujours en présence de Dieu? Et enfin, il ne nous reste plus qu'une direction à explorer. Si je descends en pensée à la cave, ces quelques marches vont-elles m'éloigner du Seigneur? Ce psaume nous dit que non. Que ce soit devant, que ce soit derrière, à gauche comme à droite, en haut ou en bas, Rien ne peut m'éloigner de la présence de Dieu. Bien des gens considèrent cela comme la pire des choses. Pensez voir un Dieu qui voit tout, un Dieu qui sait tout de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Et même quand il s'agit de paroles intérieures, et plus encore des paroles que nous n'avons pas encore formulées. C'est inacceptable. C'est une atteinte à la vie privée. Encore une façon d'être fliqué jusque dans notre vie personnelle et intérieure. Cependant, ça ne semble pas poser de problème à David. David, l'auteur de ce psaume. Au contraire, ça semble plutôt le réjouir et surtout l'impressionner. Je ne comprends pas. Je m'endors et tu es là. Et je me réveille et tu es toujours là, Dieu. Je n'arrive jamais à te surprendre dans ton sommeil. Et même quand moi je ne trouve pas le sommeil, loin de tout, en plein, en milieu du désert de Juda, je trouve toujours ton oreille attentive à ma méditation pendant la nuit. Qui est le David qui a écrit ce psaume? Le jeune berger qui garde les brebis de son père et doit combattre parfois l'ours ou le lion? Le jeune homme qui affronte Goliath tout seul devant un peuple terrorisé? S'agit-il du David poursuivi par Saül jusque dans la grotte d'Adoulam? Du David devenu roi, tantôt chef de guerre, tantôt adultère et meurtrier? Ou du David vieillissant, qui sans ses forces l'abandonnait sur le champ de bataille lors de la dernière guerre contre les Philistins, et cherchant dans le recensement de son peuple, peut-être une ultime sensation de puissance? Il est difficile de le dire. Mais la maturité de ce texte et la référence aux méchants me laissent penser qu'il est contemporain ou postérieur à sa fuite de devant Saül. En tout cas, quel que soit son âge, nous avons là les pensées d'un homme lucide sur lui-même et qui déjà peut-être aurait d'excellentes raisons d'espérer que Dieu n'a pas pu tout voir, tout entendre, tout comprendre. Eh bien, il semble que notre ami David mette plus d'espérance dans le Dieu qui est partout, qui entend tout et qui voit tout, qu'il nous décrit ici, que dans un Dieu auquel on pourrait faire des cachotteries ou avec lequel on pourrait trouver des arrangements. Un Dieu qui nous connaîtrait assez peu pour ainsi nous accorder le crédit minimum dont on gratifie les nouvelles connaissances tant qu'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir leurs défauts. J'ai entendu cette définition du mot « ami » qui m'a beaucoup plu et qui est le contraire de tout cela. Un ami, c'est quelqu'un qui connaît tout de toi et qui t'aime quand même. Cet homme, David, qui ne se fait pas d'illusions sur lui-même, a aussi compris qu'il est préférable également d'apparaître en pleine lumière devant Dieu. Il a compris que même bien caché derrière une double peau, la sienne et celle de sa mère, il était déjà dans la présence de Dieu, il était déjà connu de lui. Et enfin, David a compris que cette présence et cette connaissance que Dieu a de lui, loin d'être accusatrice, inquisitrice, sont ce qu'il a de plus précieux pour à la fois toucher la sainteté divine et recevoir la grâce de Dieu, la seule qui sauve. Qui le sauve lui, qui sauve le pécheur, qui nous sauve nous qui croyons et nous tenons dans la présence de Dieu. On ne peut pleinement saisir la grâce de Dieu que si on saisit pleinement sa sainteté. C'est ce que Jésus veut dire quand il déclare que celui à qui on pardonne peu aime peu. Non pas qu'il ait, dans les faits, moins que les autres à se faire pardonner, mais plutôt une moindre conscience de l'éloignement, de son éloignement de la sainteté divine. Ésaïe le dit également d'une autre manière et très directement au chapitre 59, versets 1 et 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. La raison essentielle pour laquelle la plupart des gens ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas parce que lui se cache, mais parce que eux se cachent de lui. Et Jean nous dit, au chapitre 3, verset 19, que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Nous avons dans cette attitude l'éternel recommencement du récit de la chute où l'homme et la femme se cachent de Dieu parce qu'ils ont honte et se mettent à avoir peur de Dieu. Dieu pourtant n'a pas changé, mais eux si. Ils ne supportent plus leur nudité devant lui. Ils ne veulent plus être vus comme ils sont. Et ceci pour une seule et unique raison. Leur manière d'agir est mauvaise devant celle de Dieu, qui, elle, est sainte. Il leur est alors préférable de changer leur point de vue sur Dieu et d'en faire un inquisiteur injuste, duquel on peut légitimement avoir peur. Une autorité morale tyrannique de laquelle il vaut mieux se tenir éloigné, plutôt qu'en être en permanence confronté au décalage qui s'est installé entre lui et eux. Un décalage qui atteint son paroxysme lorsque cette autorité attend de l'inacceptable, s'humilier, se reconnaître fautif devant sa sainteté. Dans le psaume 139, nous avons tout le contraire de cette attitude. Plus je me tiendrai proche de Dieu, et plus je serai aimé de lui. Et plus je contemplerai sans crainte sa sainteté. Plus je serai connu de lui, et plus il sera proche de moi. Plus je lui ouvrirai mon cœur, et plus il le comblera. Plus je lui avouerai mes fautes, et plus il me rendra saint. Moins je me cacherai, et plus il se révélera. J'ai tendance à penser que lorsqu'il a écrit ce psaume, David a probablement déjà vécu l'expérience de se cacher dans la grotte d'Adoulam lorsqu'il était poursuivi par Saül. C'est très pratique, une grotte, pour se réfugier, pour se cacher quand on est seul ou peu nombreux et qu'on est poursuivi par toute une troupe. On est protégé de presque tous les côtés. Il ne reste qu'une seule direction à surveiller, sans risque de se faire prendre par revers ou sur les flancs. Mais c'est aussi une impasse, et en définitive une souricière si vous êtes découvert. Beaucoup de gens se cachent de Dieu comme s'il s'agissait d'un ennemi, et vont s'enfermer dans toutes sortes de grottes plus ou moins sombres. Et lorsque nous, croyants, qui savons qu'il n'y a qu'une seule issue, celle par laquelle arrive la lumière, lorsque nous fuyons cette lumière qui vient de Dieu, ne prenons-nous pas le risque de rester prisonniers des ténèbres, d'y accoutumer nos yeux jusqu'à les trouver préférables à la lumière? Dans le livre qui porte son nom, nous lisons que Jonas décida de fuir la présence de Dieu. Au risque de vous choquer, je n'y crois pas une seconde. Que quelqu'un comme Jonas, qui connaît Dieu comme il le connaît, chose que nous constatons quand il contemple le résultat de l'action de Dieu sur les Ninivites qu'il avait parfaitement anticipé, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il ait pu penser à parvenir à se soustraire au regard et à la présence de Dieu. Je crois plutôt que c'est ce qu'il a voulu nous faire penser, ou peut-être voir tenter de se persuader lui-même. Mais par contre, qu'il ait pensé se soustraire au plan de Dieu en s'éloignant dans la direction exactement opposée à celle du lieu de l'exécution de ce plan, alors ça, c'est fort possible. Et d'ailleurs, ne dit-il pas en constatant la conversion de ces gens, « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Jonas connaissait trop bien Dieu pour espérer fuir loin de sa face. Où pourrais-je aller, loin de ton esprit, avons-nous lu? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Dit David à Dieu. Mais Jonas pensait qu'il lui restait la possibilité de ne pas entrer dans le plan de Dieu, de refuser de collaborer avec lui, quitte à mettre les voiles et peut-être se construire un château en Espagne. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est la tempête que déclencherait sa décision et qu'elle l'amènerait dans l'estomac d'un poisson plus obéissant que lui à l'appel de Dieu. Cet appel d'ingurgiter cette proie bourrée d'amertume fut-ce au prix d'une indigestion magistrale de 3 jours avant qu'il ne puisse la vomir. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà, nous dit David. Et c'est là, dans cette antichambre de la mort, que Jonas rend les armes. Car comme David, il sait que les tonnes d'eau qui sont au-dessus de sa tête ne suffisent pas à le couper de la présence de Dieu. Il sait que cette situation n'est désespérée qu'à ses propres yeux et que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il sait aussi que Dieu ne fera pas la sourde oreille, car s'il l'a amené là, ce n'est pas pour le perdre, mais au contraire, le récupérer de son égarement. Lui, le légaliste, il reconnaît que la sainteté de Dieu a pour égal sa grâce infinie. David et Jonas n'ont pas du tout le même parcours et surtout pas les mêmes tentations. Chacun, dans son domaine de faiblesse, s'est adonné au péché, tout comme nous tous. Mais la notion de la présence de Dieu est si déterminante dans leurs deux histoires, que nous sommes interpellés à réfléchir où nous en sommes nous-mêmes, dans notre proximité avec le Créateur. Nous avons commencé notre réflexion par ce questionnement de David. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Et nous l'avons poursuivi par cette tentative de passer à l'acte de la part de Jonas, passer à l'acte de fuir la présence de Dieu. Et nous en avons conclu que c'est peine perdue, inutile et même nuisible à notre âme, puisque nous éloigner de la sainteté de Dieu nous éloignera tout autant de sa grâce. Mais pour aller plus loin, posons à Dieu cette question. Où pourrais-je aller avec ton esprit? Où pourrais-je courir dans ta présence? David ne cherche pas à nous décrire un Dieu auquel on pourrait se soustraire, comme on pourrait s'évader d'une prison. Au contraire, on comprend qu'il aspire profondément à faire un pas de plus avec Dieu, à vivre de nouvelles expériences dans la présence de Dieu. Dans sa première épître, Pierre nous dit ceci. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Tout à l'heure, nous avons imaginé des gestes en avant, en arrière, à gauche, à droite, des pas vers le haut, vers le bas, dans cette idée que nous avait suggéré David, qu'il n'est nul lieu, nulle circonstance, nul instant où Dieu ne puisse nous suivre. Mais plus que de seulement nous suivre, imaginons comment nous pourrions envisager que ce pas que nous pourrions faire en sachant qu'il nous accompagne, voire même qu'il nous précède. Une jeune missionnaire en Amérique du Sud avait fait un rêve. Dans ce rêve, elle se retournait sur ses quelques années passées en mission et voyait sur le sol deux traces de pas côte à côte qui symbolisaient son chemin sur cette terre de mission en compagnie du Seigneur. Mais son attention s'est portée sur les quelques périodes où l'une des deux traces s'interrompait. Et elle a demandé à Dieu, « Seigneur, pourquoi ne marchais-tu plus à mes côtés à ces instants ?» Et dans son rêve, Dieu a répondu, « Cette trace unique que tu vois, c'est quand je t'ai porté. » Pourquoi ne pas tenter un pas avec Dieu ? Quel risque courons-nous de sortir de la présence de Dieu ? Aucun, si je m'en réfère au texte que nous avons lu. Et même si nous nous fatiguons, et même si nous nous décourageons au chemin, et même si dans notre faiblesse nous commettons des erreurs, et même si nous tombons, nous cédons à la tentation, Dieu nous retirera-t-il sa présence ? Quand Adam et Ève ont chuté, ce sont eux qui sont allés se cacher. Ils ont même pensé qu'ils avaient pu se cacher assez loin de Dieu pour qu'ils ne les trouvent pas, tant leur conception de Dieu était devenue faussée. Dans notre texte, David ne craint qu'une chose, non pas que Dieu lui retire sa présence, mais que lui-même se prive de la présence de Dieu dans sa vie, dans ses choix, et aussi au moment de la tentation. Et la Bible ne nous épargne pas l'épisode au cours desquels il a mis de côté cette résolution pour se laisser aller à ses penchants naturels. Cela a-t-il annulé la fidélité de Dieu à son égard ? Nullement. Et si parfois cette fidélité s'est exprimée sous la forme d'une discipline, Dieu ne lui a jamais retiré le pardon et la grâce qu'il lui avait promis. Ainsi, David a pu de nouveau se tenir dans la présence de Dieu, contempler sa sainteté et bénéficier de sa grâce. Quelques pas que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui, aucun n'est susceptible de nous placer hors de portée de la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Ce pas va certainement nous placer face à la sainteté de Dieu et face à notre responsabilité à l'égard de cette sainteté. Et alors, sa grâce ne nous en paraîtrait-elle pas que plus grande ? Un jour, David a eu peur de Dieu. C'est lors de l'épisode où il a cru bien faire en faisant transporter l'arche à Jérusalem sur un char, un peu à la manière des idoles païennes, plutôt que sur les épaules des Lévites consacrés, comme cela a été précisé dans la loi. De cette légèreté a découlé une accumulation de circonstances qui ont conduit à ce que l'Éternel s'enflamme de colère et a coûté la vie à un homme. Ce jour-là, David s'est trouvé en décalage avec la sainteté de Dieu, mais il n'a pas tout de suite compris pourquoi. Et la Bible nous dit que ce jour-là, David a eu peur de Dieu. Mais David s'est interrogé, et il a compris, il a cherché, il a compris à quel point, dans son désir de faire venir l'arche à Jérusalem, il avait négligé les aspects relatifs à la sainteté de l'arche. Il aurait pu en rester là, se cacher loin de ce Dieu qu'il comprenait mal et dont il ne saisit pas toute la sainteté. Mais non. 3 mois plus tard, il a fait entrer l'arche à Jérusalem non sans s'être assuré cette fois de respecter scrupuleusement les prescriptions de la loi. Et c'est en musique et dans la joie populaire, que l'arche entra à Jérusalem, et David sautait et dansait de joie. Et c'est vrai que nous tenir dans la présence de Dieu peut exposer à des découvertes et des expériences qui vont révéler notre légèreté, notre inconséquence, voire notre révolte face à la perfection de Dieu et de ses commandements. Nous pouvons choisir de craindre cela, nous pouvons le fuir en laissant l'arche où elle est, pas trop loin, parce que nous sommes des croyants, mais pas trop près non plus, de crainte que Dieu se révèle dans toute sa sainteté et que nos vies et nos valeurs soient bouleversées. Mais nous pouvons aussi ouvrir nos vies à une présence de Dieu plus proche, plus vraie, plus intime, plus dérangeante peut-être, mais plus enthousiasmante. Quel chemin voulons-nous faire avec Dieu ? À combien de pas voulons-nous le suivre ? À quelle distance le laisserons-nous nous accompagner ? Quel pas vais-je décider de faire cette semaine pour me tenir plus proche de lui ? Pour moins risquer de me trouver dans une situation indigne de cette race élue à laquelle Pierre dit que j'appartiens. Peut-être même pour m'extraire d'une telle situation si je m'y trouve déjà. Pour pouvoir contempler en face la sainteté de Dieu et mesurer l'étendue de sa grâce. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Amen.